Hélène Philippe pour l'info, bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. C'est une page de l'histoire de France. Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, est mort après avoir vécu et incarné un siècle de liberté. Salut Emmanuel Macron. Il avait 101 ans, il sera inhumé au Mont Valérien, lieu de martyr de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Regardez vers l'avenir pour retrouver souveraineté et compétitivité. L'enjeu du plan d'investissement France 2030, détaillé aujourd'hui par le chef de l'État. Mobilité verte, énergie, santé, 30 milliards d'euros sur 5 ans. Manière d'enjamber l'échéance électorale aussi, c'est ce que lui reproche l'opposition. On en parlera également au téléphone, sonne Fabienne.
Et nous avons choisi, nous, de retenir ces petits réacteurs nucléaires dont on nous dit qu'ils sont plus rapides à construire, plus sûrs et plus modulaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous et notre avenir nucléaire? Est-ce que les promesses en matière d'énergie tiennent toujours? Est-ce qu'avec les mini-réacteurs, le maxi-nucléaire est de retour? À vos téléphones, au 01 45 24 7000.
Dans l'actualité encore, le procès d'Alain Griset, accusé d'avoir menti sur sa déclaration de patrimoine. Le ministre parle d'une maladresse. 4 millions de Français fragilisés par la crise, c'est une étude du Crédoc. Le film Titane, Palme d'Or à Cannes, représentera la France aux Oscars. Et puis le monde de l'édition bousculé par les auteurs qui se lancent en solo. La maison de Fallois cesse son activité après le départ de la star Joël Dicker.
France Inter.
Sa voix est empreinte d'une certaine émotion. La ministre de la Défense, Florence Parly, tout à l'heure au Sénat.
En préambule de cette audition, je voudrais d'abord vous informer du décès d'Hubert Germain, notre dernier compagnon vivant de la Libération, et je voudrais avoir une pensée émue pour lui, pour sa famille et pour ses frères d'armes qui nous ont quittés bien sûr depuis longtemps. Mais c'est un moment important de notre histoire.
Un moment important de notre histoire, dit la ministre. Bonsoir Mathilde Dehimy.
Bonsoir Hélène.
Hubert Germain avait 101 ans et c'est en effet une partie de l'histoire de France qui s'en va. C'était le dernier combattant français de la Seconde Guerre mondiale décoré par le général de Gaulle, le dernier survivant des compagnons de la Libération.
Un engagement qui date d'avant l'appel du 18 juin. Hubert Germain aimait avec malice rappeler sa première confrontation avec le maréchal Pétain dans sa jeunesse. C'est son père, général, qui lui avait présenté. La suite est racontée par Jean-Charles Deniaud, proche d'Hubert Germain et auteur l'an dernier du documentaire « Les derniers compagnons de la Libération ».
Le maréchal Pétain lui avait fait des remontrances parce qu'il ne travaillait pas très très bien à l'école et au lycée. Il a dit « Je suis le premier anti-pétiniste de France parce que je n'avais pas accepté les remontrances du maréchal Pétain ». Il s'est engagé contre l'avis de sa famille. « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Maintenant c'est fini, c'est perdu ». La guerre est terminée. Pourquoi tu vas t'engager? Ça sert à rien.
Et contre l'avis de sa famille, il descend à Saint-Jean-de-Luz, embarque pour Londres et s'engage pour libérer la France. À la Légion étrangère, il combat à Bir Hakeim, en Tunisie, en Italie, puis débarque avec ses hommes sur une plage de la Côte d'Azur. Choqué de la passivité des Français alors, Hubert Germain le raconte en 2017 à Stéphane Cohn dans Interception.
Je dirais que nous avons été déçus, nous avons été les cocus de l'histoire. Tous ces gens-là qui avaient fait tous les combats en Afrique, etc., avec nous, en Italie, se retrouvaient là. Et qu'est-ce qu'ils voyaient? Des Français qui nous regardaient rassembler notre matériel et filer vers Toulon. L'apéritif était sur les tables. Bravo les enfants, allez-y. Les légionnaires m'ont dit, ils viennent pas avec nous ceux-là.
Après-guerre, il revient à la vie civile, puis s'engage en politique jusqu'à devenir ministre sous Pierre Messmer. Premier engagé auprès de Gaulle, il devient donc le dernier compagnon de la Libération, enterré au Mont Valérien. Une fierté, a-t-il confié à l'époque au réalisateur Jean-Charles Deniaud.
Daniel Cordier n'avait pas tellement envie d'aller au Mont Valérien, parce qu'il m'avait fait une réflexion. Vous savez, au Mont Valérien, c'est une crypte, il doit faire froid là-bas. En revanche, Hubert Germain était très fier d'aller au Mont Valérien. Pour lui, cela représente beaucoup de choses.
La cérémonie d'inhumation d'Hubert Valérien aura lieu le 11 novembre à l'Arc de Triomphe et donc ensuite au Mont Valérien, présidé par Emmanuel Macron. Et je me tourne vers vous, Béatrice Duguay, bonsoir.
Bonsoir.
Il faut se souvenir de ce qu'étaient les compagnons de la Libération.
Alors l'ordre est créé en novembre 40 par le général de Gaulle pour récompenser en fait ceux, celles qui se distinguent dans leur volonté acharnée de libérer la France. À la fin de la guerre, en 46, les compagnons comptent en tout 1038 membres. Une cinquantaine de ces médaillés sont morts au combat ou en service. 270 sont nommés à titre posthume. La liste est close. Elle comprend 6 femmes seulement alors, et puis aussi 5 communes françaises et 18 unités combattantes. La liste sera rouverte, figurez-vous, en 58 pour y inclure Winston Churchill, puis le roi George d'Angleterre en 1960. Les 3/4 des compagnons, ou presque, sont issus des rangs de la France libre aux côtés de Gaulle. Un quart seulement de la résistance intérieure, donc. Ils sont en grande partie des militaires, d'actifs, et surtout des réservistes, des engagés volontaires au moment de la guerre. 10% d'entre eux n'avaient pas 20 ans en 39, quand la guerre a commencé. Ils ont donc sacrifié leur jeunesse pour que la France se libère du joug nazi. Après-guerre, eh bien, leurs parcours ont été souvent brillants, engagés toujours, héros redevenus simples citoyens. 5 d'entre eux, tout de même, ont dirigé le gouvernement. Chaban Delmas, Pierre Messmer notamment. Une 20aine ont été ministres. Plus de 80 sont restés dans l'armée. 15 sont entrés dans les ordres. Quelques-uns écrivains aussi, Malraux, bien sûr. Romain Gary aussi.
En mémoire d'Hubert Germain et de tous ses compagnons qui sauvèrent l'honneur de leur patrie, la France s'incline respectueusement. Ce sont les mots du Premier ministre Jean Castex, le vieux soldat Germain, le der des der. Hubert Germain est donc mort aujourd'hui. Il avait 101 ans.
Et il est 19h presque 6 sur France Inter. Emmanuel Macron est bien en reconquête industrielle et électorale.
À 6 mois de l'élection présidentielle, le président a mis sur les rails son plan d'investissement pour la France de 2030. 30 millions d'euros sur 5 ans pour faire émerger les champions de demain dans l'agriculture, la santé, les fonds marins. On va y revenir, mais avant tout, l'énergie et les transports. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
4 milliards d'euros promis pour l'avion bas carbone, la voiture électrique. Est-ce suffisant pour la conversion d'une telle industrie qui nécessite des dizaines de milliards d'euros?
Alors, décarboner l'industrie coûterait plutôt, selon les économistes, 2% du PIB, soit 50 milliards d'euros par an pour la France, soit 500 milliards d'euros d'ici 2030. Ce mur de l'investissement fait débat chez les économistes, mais dépasse de très loin les quelques milliards annoncés par le chef de l'État. Fabriquer 2 millions de voitures hybrides ou électriques en France à l'horizon 2030 nécessiterait également de rattraper les constructeurs asiatiques lancés sur l'électrique il y a déjà plus de 15 ans, explique Flavien Neuvy, économiste à la tête de l'Observatoire CTLM.
Je pense que le principal problème ne réside pas dans la maîtrise de la technologie, parce qu'on a les savoir-faire, on a les ingénieurs. Franchement, je pense qu'on a vraiment de grands savoir-faire. La question, ce sont les coûts de production, parce que les coûts de production sont structurellement plus élevés qu'en Chine. Et la deuxième question, c'est l'accès aux ressources, terres rares, des métaux, du lithium, etc. On a aussi cette forme de dépendance-là, qui de toute façon sera inéluctable. C'est à la fois complexe, ambitieux, et en face, on a des concurrents asiatiques qui sont déjà très performants. Ils ont 15 ans d'avance. Donc vraiment, c'est un gros challenge qui nous attend.
Décarboner l'industrie automobile implique également de verdir la sidérurgie. L'impulsion de l'État fonctionnera si les investisseurs privés lui emboîtent le pas, explique un conseiller de l'Élysée. Là aussi, le mur de l'investissement est très élevé. Le sidérurgiste ArcelorMittal estime devoir dépenser 40 milliards de dollars d'ici 2030 en Europe pour réduire ses émissions carbone, soit plus d'un milliard d'euros par site, comme par exemple à Dunkerque.
Emmanuel Macron qui relance aussi le débat sur le nucléaire en misant sur de petits réacteurs plutôt que sur de gros EPR, on en reparlera juste après ce journal dans le téléphone sonne. L'une des plus grosses enveloppes promises aujourd'hui. Et pour la santé, la crise sanitaire a révélé les dépendances de la France et son incapacité à faire émerger un vaccin. 7,5 milliards d'euros sont donc fléchés pour soutenir le développement d'une 20aine de biomédicaments au moins en 10 ans, que ce soit contre les cancers, les maladies émergentes ou chroniques. On ne sait encore rien de la répartition de cette enveloppe, mais c'est un premier pas pour Jean-François Balducci, le directeur général d'AstraZeneca Atlantpol à Nantes, qui a une branche biothérapie.
Si on ne s'inscrit pas dans un cadre européen, la plupart de ce qui est dit là, qui encore une fois va dans le bon sens, ne pourra pas arriver à destination. Dans le domaine des médicaments, il nous faut une agence de type BARDA, comme aux États-Unis, au niveau européen, qui sera dotée de 15 à 20 milliards d'euros pour justement être capable de faire face aux futures crises. Donc au niveau national seul, ça ne marchera pas. Donc bien sûr, la France doit prendre toute sa part dans une telle agence, mais ça ne peut pas se faire qu'au niveau national. Maintenant, encore une fois, moi je suis ravi que le cap qui est fixé s'inscrive dans la bonne direction, et notamment sur ce côté, on n'oppose pas start-up et industrie, bien au contraire, la formation très importante et la pluridisciplinarité.
L'innovation de rupture, elle ne se fait plus dans les grands groupes, dit Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui retrouve ses élans de 2017 pour la Startup Nation. Il faut qu'il y ait des prises de risques, sortir d'une habitude qui consiste à dire que l'échec est un drame. Et puis, il y a eu deux surprises dans ce discours. La place de la culture, la construction de studios, notamment pour gagner la bataille culturelle face aux titans américains. Et puis, l'exploration des fonds marins. Bonsoir Célia Kira.
Forêt.
Bonsoir Hélène.
La France a le deuxième plus grand espace maritime au monde, hein, derrière les États-Unis. L'exploration doit être, dit le chef de l'État, une priorité des 10 prochaines années.
Oui, sur ce sujet pourtant sensible, Emmanuel Macron veut avancer vite. Il ne veut pas laisser dans l'inconnu une partie importante du globe, le fond de l'océan. Il ne veut pas, en d'autres termes, se priver d'un trésor. Cette exploration est pour lui un levier extraordinaire de compréhension du vivant et d'accès à certains métaux rares. À 4000 ou 6000 mètres de profondeur, les fonds marins regorgent en effet de cobalt, manganèse, cuivre, lithium, nickel, des ressources indispensables pour les batteries de voitures, les éoliennes ou les téléphones. Des robots sont tout prêts pour aller chercher dans les fonds. Le président, pour le moment, ne parle d'exploration et non d'exploitation, mais les ONG n'y croient pas. François Chartier, pour Greenpeace, dénonce une course infinie aux ressources.
Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté dans la compréhension du terme, on ne parle pas du tout de science. On parle d'aller explorer les possibilités en termes de ressources, en termes de gisements. On parle donc d'une activité industrielle et donc destructrice potentiellement. C'est à la fois une menace pour la biodiversité, puis c'est aussi un enjeu climatique. Si on commence à, de manière industrielle, aller retourner la couche sédimentaire du fond sous-marin qui s'est accumulé pendant des milliers d'années, on va libérer des quantités de carbone extrêmement importantes.
Et pourtant, certains fonds marins ont déjà été en partie explorés par les scientifiques. À Marseille, en septembre, l'Union internationale de conservation de la nature a voté un moratoire justement sur l'exploration des grands fonds marins, car la protection de la mer n'est pas garantie. La France s'était abstenue, on comprend mieux pourquoi.
Et France 2030, c'est un plan à 30 milliards d'euros au total, entre 3 et 4 milliards inscrits dans le dernier budget du quinquennat. Dans quelques semaines, pour le reste, il va falloir attendre un éventuel second mandat. Et c'est ce que retient l'opposition, de droite comme de gauche, Anne Souhaitement.
Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont dégainé dès la fin du discours d'Emmanuel Macron. Sur Twitter, la candidate à l'Élysée raille le « quoi qu'il en coûte, je veux être réélu du président ». Jean-Luc Mélenchon fustige de son côté une nouvelle journée de propagande macroniste. 8 milliards pour le secteur de l'énergie, 4 pour développer de nouveaux moyens de transport, 3 pour la santé, 30 milliards d'euros au total. Une euphorie dépensière renchérit le chef de file des députés LR, Damien Abad.
C'est bien gentil de faire des annonces, mais quand vous avez 3 000 milliards d'euros de dette, quand vous êtes devenu le président de la dette et des déficits, quel investissement vous voulez faire dans l'avenir? La vérité, c'est que la France, aujourd'hui, c'est la championne de tous les pays de l'OCDE du poids de la dépense publique dans la richesse nationale.
Du côté des écologistes, on retient surtout la volte-face d'Emmanuel Macron sur le nucléaire. Placer les petits réacteurs comme premier objectif du plan France 2030, un engagement que n'aurait pas pris le candidat Macron en 2017, soupire le député Mathieu Orphelin, soutien de l'écologiste Yannick Jadot.
Il faut voir le grand écart absolu avec sa position de 2017. C'est un choix stratégique pour lui de coller aux positions, on va dire, conservatrices et de s'écarter d'un engagement résolument écologiste.
Porte-parole du Parti Socialiste, Boris Vallaud ironise. Inégalité qui progresse, industrialisation qui recule. Le candidat Macron dresse un bilan sévère du président sortant.
Anne Souhaitement, depuis l'Assemblée nationale, pour les réactions à ce plan 2030, ce qu'il faut en retenir, c'est aussi un article à retrouver sur franceinter.fr. La crise sanitaire a bousculé l'économie et elle a aussi, malgré les aides massives de l'État, fragilisé 4 millions de Français. C'est une étude inédite du CREDOC, le Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie. Lauriane Delanoë, bonsoir.
Bonsoir.
De qui parle-t-on?
Alors cette étude parle des nouveaux vulnérables. Ce sont en grande majorité des actifs de moins de 40 ans. Ils travaillent ou travaillaient dans les secteurs les plus frappés par la crise, le commerce, l'industrie, l'hôtellerie-restauration, pardon, la culture. Il y a ceux dont le CDD n'a pas été renouvelé, ceux qui ont subi le chômage partiel. Et selon Sandra Wabian, la directrice du pôle Société du CREDOC, co-autrice de cette enquête, ils cumulent les difficultés d'abord financièrement.
40% de ces nouveaux vulnérables n'ont pas réussi à payer une de leurs factures importantes, leurs charges, l'électricité, le gaz, l'eau, les abonnements téléphoniques ou internet, le loyer, les frais de scolarité. C'est finalement le fait de réussir à assurer le quotidien qui devient quasiment impossible.
Et après, c'est l'engrenage des renoncements sur la santé et l'alimentation, des difficultés pour gérer les enfants. Sandra Wabian pointe aussi une forte défiance envers les institutions.
Les personnes qui ont été vulnérabilisées par la crise sont en moyenne beaucoup plus en colère, avec un soutien à des formes d'action radicale, de la violence contre des biens ou contre des personnes. Mais à partir du moment où on a une aide, soit par les pouvoirs publics, soit par des associations, là, on retrouve en fait des niveaux de confiance et d'optimisme par rapport à l'avenir qui sont très proches de ceux qu'on a en population générale.
Conclusion logique donc de ces deux autrices de l'étude, il faut maintenir les aides à la fois pour aider les personnes précaires et pour protéger la cohésion sociale.
Lauriane Delanoë.
Anna Noé, il n'y a aucune loi au-dessus de la République et les prêtres à qui l'on confierait des crimes sur des enfants doivent le signaler à la justice. Voilà ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin, au président de la Conférence des évêques de France qu'il recevait aujourd'hui après ses propos polémiques sur le secret de la confession. Un an après l'assassinat de Samuel Paty, des hommages se préparent dans les écoles vendredi et il pourrait bien y avoir une école à son nom dans chaque département. Demande du député Olivier Falorni aujourd'hui à l'Assemblée. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer y est favorable.
Un procès rarissime pour un ministre en exercice.
Alain Grisel, ministre des PME, avait rendez-vous au tribunal aujourd'hui, jugé pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale. Le ministre avait fait décaler la première audience pour des raisons d'agenda. Cette fois, il était bien là, l'Aurélie Carrive.
Son insigne de la Légion d'honneur épinglé à la boutonnière, Alain Griset déroule son parcours. Ses origines modestes dans le Nord, le bac qu'il rate brillamment, comme il dit, la carrière d'artisan taxi qu'il embrasse par hasard, d'abord standardiste avant de monter les échelons. Rien dans mon parcours familial, professionnel ne laissait penser que je serais un jour ministre, insiste-t-il. Quand il est nommé au gouvernement, c'est donc la surprise et les rendez-vous qui s'enchaînent. Alors oui, quand il déclare son patrimoine, il omet les 130 000 euros placés sur son compte épargne action, car pour lui, cette somme ne lui appartient pas. C'est la Confédération de l'Artisanat du Nord, dont il était président jusque-là, qui lui a confié pour qu'il la fasse fructifier. C'était sans doute une maladresse, plaide-t-il, mais maladresse, ça ne veut pas dire malhonnêteté. C'est pourtant bien ce que pense le procureur qui tense la particulière mauvaise foi du prévenu. Si sa situation était régulière, pourquoi avoir caché l'existence même de ce compte? Pourquoi avoir aussitôt voulu rembourser sans rien dire? Le ministère public a requis 10 à 12 mois de prison avec sursis, 30 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité.
Et rappelons que pour ces faits, une enquête est en cours à Lille pour abus de confiance. 9 ans de prison pour Logan Nizin, le fondateur du groupuscule d'ultra-droite OAS. 5 autres prévenus ont été condamnés avec lui pour avoir fomenté des attentats contre des musulmans ou des personnalités politiques. Comment aider les Afghans sans soutenir les talibans? Délicate question sur laquelle se penchait le G20 aujourd'hui, sur les moyens de distribuer une aide humanitaire d'urgence sans que cela profite au régime. L'Italie organisait ce sommet virtuel. Bruce de Galzin est à Rome.
L'urgence humanitaire est gravissime, selon Mario Draghi. L'Union européenne va donc mettre 1 milliard sur la table et les États-Unis vont ajouter 300 millions de dollars. Une réponse humanitaire qui sera coordonnée par les Nations Unies. C'est ce qui a été décidé par tous. Mais au-delà de l'urgence, Mario Draghi a aussi insisté sur les droits de l'homme et surtout des femmes. Nous avons tous parlé du problème des droits des femmes, de la nécessité de leur garantir l'instruction et de ne pas retourner 20 ans en arrière. Tous les participants du G20 étaient d'accord sur ce point. Tous d'accord aussi pour que l'Afghanistan ne redevienne pas un refuge pour le terrorisme international, mais Mario Draghi n'en a pas dit plus. Pour le président du Conseil, l'absence des dirigeants chinois et russes est un faux problème, car ils étaient représentés. Il est même satisfait. Je considère que c'est un succès, car je pense que c'est la première fois que les dirigeants ont donné une réponse multilatérale à la crise afghane. Le multilatéralisme est de retour. Ce n'est pas facile, mais il est de retour comme un système de travail des pays les plus importants du monde. En revanche, pas question de reconnaître le régime taliban, mais il faut bien leur parler pour mettre en place les actions d'urgence. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
La maison d'édition de Fallois ferme boutique.
Parce que son auteur star la quitte, Joël Dicker, pour s'auto-éditer. Et aussi parce que c'était la volonté du fondateur de cette maison d'édition, Bernard de Fallois, mort en 2018, Ilan Amor-Youssef.
Depuis 10 ans, les éditions Bernard de Fallois, c'était une maison portée économiquement par les ventes d'un seul auteur, Joël Dicker. Après la mort de son éditeur en 2018, Dicker a publié encore un roman chez De Fallois, puis il a annoncé sa décision de partir. Mais ce départ n'est pas la cause directe de la cessation d'activité de la maison, assure Dominique Goust. Il dirige De Fallois depuis 2018.
Bernard De Fallois avait souhaité que, dans l'hypothèse de sa disparition, l'activité de la maison ne se prolonge pas très longtemps. Il excluait toute revente ou toute intégration dans un groupe ou dans une maison plus importante. La décision d'arrêt est une décision programmée et inscrite, encore une fois, dans les volontés de Bernard de Fallois avant son décès.
Et si Joël Dicker avait décidé de rester?
Il est certain que si Joël Dicker avait manifesté un très fort désir de rester, de faire d'autres livres, etc. On en aurait discuté, je ne sais pas la solution qui aurait été adoptée.
Programmée ou pas, cette fermeture démontre la difficulté pour les maisons indépendantes de survivre dans un secteur de plus en plus dominé par les grands groupes.
Et où l'auto-édition est à la mode, Joël Dicker, Riyad Satouf, Éric Zemmour et Kylian Mbappé, le joueur de foot, lui aussi lance sa propre maison d'édition pour sortir son roman graphique. Je m'appelle Kylian, ça sort le 12 novembre prochain, tirage à 300 000 exemplaires quand même. Le dernier mot pour le cinéma, je le disais tout à l'heure, c'est le film Titane de Julia Ducournau qui va représenter la France à la cérémonie des Oscars. Annonce ce soir du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, le CNC. Titane, Palme d'Or à Cannes, je le rappelle, et la cérémonie des Oscars qui aura lieu en mars prochain, 2022.
On dit ça comme ça. Allez, Hélène, merci beaucoup. À demain, bien sûr. Le téléphone sonne dans un instant. On parle de nucléaire. Un œil sur le ciel juste avant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Élodie Cailleuc, vous nous annoncez de la grisaille encore demain matin.
Oui, sur la moitié nord jusqu'au massif central et au Lyonnais, il faudra vraiment composer avec nuages bas, brouillard. Ils seront très nombreux. On trouvera tout de même des éclaircies plus belles entre la Normandie, la région parisienne, la Lorraine et le nord de l'Alsace. Et puis de l'Aquitaine à la Méditerranée, là ce sera le soleil qui s'imposera très rapidement, avec du mistral et de la tramontane encore présents et des températures fraîches, souvent 2 à 8 degrés.
Et ça va mieux demain après-midi en revanche.
Oui, on aura toujours du soleil au sud et puis il gagnera du terrain vers la Vendée, vers la Touraine. Une averse possible quand même sur le sud des Alpes et la Côte d'Azur. Un orage pour la Corse. Au nord de la Loire et sur les régions de l'Est, ça s'éclaircira doucement. Les éclaircies seront quand même trop discrètes sur l'Auvergne, de la frontière belge vers le Grand Est et la région parisienne, avec quelques pluies possibles près des frontières du Nord. Et puis côté thermomètre, seulement 13 degrés à Metz, à Mulhouse, 14 à Lyon et Aurillac, 16 au Havre, à Paris, à Limoges, 18 pour Nantes et pour Toulouse. On aura 20 degrés à Marseille et 20 3 à Ajaccio, Fabienne.
Élodie Cailleuc de Météo France. Merci beaucoup, Élodie.